divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.
Auditrice, auditeur, bonjour. Cette introduction musicale nous place au cœur du débat qui va être le nôtre aujourd'hui, au cœur du thème. C'est la Première Guerre mondiale et notamment la question des fusillés pour l'exemple et de la réhabilitation des collectifs des fusillés pour l'exemple. Bataille sur laquelle la libre pensée se bat depuis pas moins de 29 ans. Bataille qui a été reprise et je reçois aujourd'hui Nicole Orini qui est chargée au niveau de la Commission administrative nationale de cette bataille-là. Nous avons en ligne Monsieur Pierre Roy qui est lui aussi chargé de cette bataille-là et qui l'a menée tambour battant depuis des années. Et nous aurons l'occasion de revenir vers Madame Ossard qui est elle-même petite fille de fusillé pour l'exemple. Donc Nicole, bonjour.
Bonjour.
Je vais te laisser la parole parce que nous avons engagé une bataille notamment autour d'un monument, pour réhabiliter les fusillés pour l'exemple. Peux-tu nous expliquer pourquoi nous avons engagé cette bataille-là ?
Eh bien, comme tu l'as dit, ça fait plus de 20 ans que la libre pensée mène le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple dans le cadre de ses combats contre la guerre comme organisation pacifiste internationaliste. Et nous avons salué pendant ces décennies à la fois la déclaration de Lionel Jospin en 98 qui avait déclaré qu'il fallait réintégrer les fusillés pour l'exemple dans la mémoire collective, la déclaration de Nicolas Sarkozy qui en 2008 a reconnu qu'ils n'étaient pas des lâches et quand François Hollande est venu au pouvoir, nous nous souvenions que comme président du Conseil général de Corrèze, il avait pris il a fait voter une motion comme quoi il fallait réhabiliter tous les fusillés. Et il avait dit aussi que, comme président de la République, il ferait ce qu'il avait fait comme président du Conseil général de Corrèze. Bon, malheureusement, il n'en a rien été. Et jamais il n'a prononcé le mot de réhabilitation. Au contraire, en 2014, on a vu s'ouvrir dans le musée de l'armée un espace, puisqu'on dit comme ça maintenant, pour les fusillés. Autrement dit, et pour nous c'est le comble du scandale, les fusillés sont maintenant à côté de ceux qui les ont fusillés, à côté de leurs bourreaux. Et aucun élément dans ce qui est donné comme explication dans ce musée ne permet de mettre en cause les tribunaux d'exception, les tribunaux auxquels ils ont été soumis avec leur jugement implacable. Bien au contraire, tout nous invite dans cette exposition, dans cet espace, à considérer tout cela comme, après tout, assez normal et à accepter. Alors, devant le reniement du président de la République, la libre pensée a pris ses responsabilités, nous n'avons pas accepté, et nous avons décidé d'ériger un monument à la mémoire des fusillés pour l'exemple, pour leur rendre leur honneur, pour rendre leur honneur aux 639 soldats tombés sous les balles françaises. Cela a déjà été fait pour d'autres monuments en France, que ce soit pour des monuments pour les fusillés ou d'autres monuments, c'est un appel à une souscription nationale. Il s'agit donc que les citoyens fassent eux-mêmes ce que n'ont pas fait les responsables politiques. Nous avons donc lancé une souscription nationale, nous avons contacté des sculpteurs et nous devons dire qu'un certain nombre d'entre eux se sont même proposés spontanément, ce qui donne une grande idée de l'écho que reçoit cette proposition. Nous avons leurs projets, qui sont tous des projets intéressants et émouvants, et nous avons donc aujourd'hui la certitude qu'un monument sera élevé sur la ligne de front, un monument en pierre, en hommage aux fusillés.
Alors là, on le voit bien, nous avons pris, parce que nous l'avons dit, nous sommes aussi la République, nous avons pris nos responsabilités en faisant ce monument et en engageant la bataille pour ce monument qui est à la fois, les auditrices et les auditeurs l'auront compris, une souscription, parce que le monument n'est pas encore fait, hein, on veut le faire sur plusieurs années et prévoir cela sur justement le fameux centenaire de la guerre 14-18. Mais justement sur cette question du centenaire, cette année, il y a eu une drôle de campagne au niveau de l'histoire, au niveau de la bataille de Verdun. Là, je me tourne directement vers Pierre Roy. Pierre Roy, bonjour.
Bonjour.
Bien, et sur cette question de la bataille de Verdun, c'est quand même un comble parce que c'est une bataille qui a fait 700 000 victimes et nous avons l'impression autour de cette campagne aujourd'hui que c'est un événement historique, une espèce de couche du millefeuille de l'histoire parmi tant d'autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre ?
Oui, moi je pense que là encore, c'est une entreprise hypocrite pour dissimuler la réalité des choses. On a eu avec Verdun le concentré de ce qu'on peut appeler la guerre industrielle, qu'on peut appeler aussi la stratégie de la bouillie humaine, puisque il arrivait qu'il tombe un obus à la seconde, donc dans des conditions épouvantables, et on a des témoignages qui montrent que c'était l'horreur absolue, quoi. Je sais que les quelques lignes que je vais lire vont peut-être faire choquer certains auditeurs ou certaines auditrices, mais c'est un texte rapide de Giono. Il est avec 8 de ses camarades en août 1916, quelque part sur le front. Ils sont dans un trou d'obus, ils sont 8 à être là. Et il écrit « Nous faisons dans nos mains, c'est une dysenterie qui coule entre nos doigts. On ne peut même pas arriver à jeter ça dehors. Ceux qui sont au fond essuient leurs mains dans la terre, les trois qui sont près de la porte s'essuient dans les vêtements du mort. C'est de cette façon que nous apercevons que nous faisons du sang épais. Nous avons tous notre quart passé dans une couronne, notre équipement, car nous sommes à tout moment dévorés par une soif de feu, et de temps en temps nous buvons notre urine. C'est l'admirable bataille de Verdun. » Je pense qu'on ne peut pas mieux caractériser cette erreur absolue qui a été la bataille de Verdun, tu as rappelé les chiffres. Le système de Noria voulu par Pétain exigeait des effectifs considérables, il fallait toujours les renouveler, et on disait qu'au bout de 30% de pertes, on estimait à 30% de pertes, alors on les envoyait au repos. Et en permanence, par la fameuse voie sacrée, eh bien les régiments montaient au feu, etc., etc. Deuxièmement, ça c'est le général Bach qui le fait remarquer, les lignes de front français avaient été partagées arbitrairement en 5 secteurs, et ceux qui dirigeaient ces secteurs ne connaissaient absolument pas les unités dont ils avaient le commandement, et c'était donc une atmosphère de déshumanisation qui explique dans ces conditions comment des actes arbitraires se sont multipliés. Et on pouvait faire observer que les fusillés pour l'exemple, il y en a eu 55 qui ont été fusillés pour l'exemple.
55, soit bien.
55, oui. À Verdun ou autour de Verdun, sur les 137 au total de l'année 1916, on en a décompté, enfin le général Bach en a décompté 55. Et il y en a probablement un petit peu plus, sans compter évidemment les exécutions sommaires.
Bien sûr, bien sûr.
Et cette exemplarité, prétendue exemplarité, on peut la mettre en doute, puisqu'il y avait... Alors, il est arrivé évidemment que la condamnation soit suivie assez vite de l'exécution, mais le plus souvent, ça a pris un temps considérable.
Oui.
Il y avait parfois un mois ou un mois et demi qui s'écoulait entre la condamnation et l'exécution. Quelle exemplarité !
Oui, tout à fait.
On se moque de nous.
Oui, oui, bien sûr. Là, voilà. Là, on voit bien qu'on est relié non seulement à l'histoire, et on comprend la réaction des sculpteurs qui se sont mis à aider la libre pensée et à proposer ces projets-là. Nicole, toi, tu voulais revenir plutôt sur des cas, alors à la fois sur on a abordé Verdun, mais sur des cas aussi très très concrets. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, parce que je constate que notre volonté de rendre leur honneur aux soldats fusillés pour l'exemple est très largement partagée. Et je suis originaire d'un département, le département de l'Aisne, qui a vu tomber plus de 50 soldats sous les balles françaises. Et plusieurs villages dans le département de l'Aisne ont d'ores et déjà rendu hommage aux fusillés pour l'exemple. Alors, on connaît bien sûr le monument de Vingré. On connaît également le monument de Fontenoy. Vingré, les 6 soldats qui ont été fusillés en décembre 14. À Fontenoy, 2 soldats. Berceau, le pantalon rouge. Les Maris, qui a été accusé faussement de s'être mutilé volontairement à la main. Et plus récemment, une autre municipalité, tout près du chemin des Dames, celle de Mézy, a rendu hommage à 4 soldats qui ont été fusillés en juin 17. Et je voudrais profiter de l'antenne aujourd'hui pour rendre hommage à l'un d'entre eux, Alphonse Didier, qui après les sanglantes attaques à Craonne auxquelles il a participé, s'est révolté avec ses camarades. Il a été condamné à mort et au moment d'être fusillé, il a fait la demande suivante à la seule personne à qui il pouvait parler, à savoir l'aumônier. Il dit « Vous écrirez à mon père et à ma mère que je suis mort pour mes idées. Vous qui parlez aux chefs, il faut leur dire que les hommes en ont assez de cette boucherie. » Et jusqu'au bout, il a assumé le rôle qu'il avait eu dans cette révolte contre le fait de remonter aux tranchées. Et cette année, dans un autre village tout proche de Mézy, et tout proche du Chemin des Dames aussi, Roussy, le village d'ailleurs dont parle Dorgelès dans les Croix de Bois, une stèle va être inaugurée en mémoire de 6 soldats fusillés au cours de la guerre dans ce village. Nous sommes en liaison avec une des représentantes du bureau de l'association qui est à l'initiative de ce monument, et elle va sans doute nous en dire plus. Alors, Madame Ossard, pouvez-vous nous dire comment est né le projet de rendre hommage à ces soldats fusillés?
Oui, le projet est né d'une étude que l'association Le Regain de Roussy a faite, et sur 212 soldats qui ont été déclarés morts à Roussy, donc 5 soldats ont été fusillés en mai et juin 1916 et un autre en juin 1917 pour refus collectif d'obéissance. Donc effectivement, on est à 6 personnes fusillées qui ont été fusillées dans l'après-midi du jugement, c'est-à-dire le jugement a été fait le matin et ils ont été fusillés l'après-midi. Le secteur qu'ils occupaient faisait l'objet de nombreuses attaques, ce qui implique un état de fatigue important et qui induisait des pertes humaines encore plus importantes du fait de cette fatigue, les réflexes étant moindres. Les noms de ces messieurs sont les suivants. Lucien Balleux, Émile Lherminier, Félix Milot, Paul Regaud, Théophile Boisseau, Henri Valembras. C'est à l'initiative de l'association Le Regain et l'accompagnement de la commune de Roussy que nous avons décidé de mettre en lumière ces soldats qui ont été fusillés pour l'exemple, et il a été décidé, afin de les honorer, d'honorer leur mémoire, de produire cette stèle qui sera inaugurée d'ailleurs le 28 mai 2016. Et l'artiste est un jeune monsieur du village qui est issu de l'école de Florence et qui a été toute son enfance et son adolescence a été bercée par l'histoire du Chemin des Dames, mais aussi de ces hommes-là. Et le nom de ce jeune artiste, c'est le jeune Victor. Les deux premiers messieurs, soldat Balleux et soldat Lherminier, ont eu leur nom apposé sur le monument aux morts de leur mairie. Oui. Les autres, non. Et ces messieurs tous, alors les 6, reposent à la nécropole militaire de Pont-Aver, c'est-à-dire à 4 km de Roussy.
Bon, je vous remercie de ces précisions. Et je rappelle que la cérémonie pour l'inauguration de cette stèle aura lieu le samedi 28 mai à 11h dans le village de Roussy.
Voilà.
Merci, madame.
Je vous en prie.
Alors, Pierre, on revient vers toi parce que là, on voit bien que cet appel-là de cette association-là a aussi un écho parce que nous avons et nous sommes en train de lancer un appel des familles des fusillés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement?
Oui, rapidement. C'est un appel à la République et c'est les descendants des familles, des fusillés par exemple, qui disent « nous demandons justice ». Parce qu'ils ont le sentiment tout à fait exact que l'opprobre s'est répandu sur leur famille, qu'il a fallu pour elles vivre depuis dans ce déshonneur et cette sorte d'infamie qui se sont ajoutées à la perte de leurs ancêtres. Depuis 100 ans, un silence absolu s'est abattu. Il a fallu, pour la plupart des descendants de ces malheureux, enfouir ce chagrin au plus profond d'eux-mêmes. Et moi, j'ai eu des témoignages pendant des conférences que j'ai pu faire de familles, de descendants de ces fusillés qui venaient me voir en me disant « Merci de ce que vous faites pour cette juste cause. Cette situation est difficile à vivre encore maintenant. C'est une plaie qui ne s'est pas refermée. Alors nous demandons solennellement que la République réhabilite tous les fusillés pour l'exemple. Nous en avons assez des douleurs, des pleurs que nous avons pu verser, de la honte. » Et assez des souvenirs qui sont des souvenirs dévastateurs et destructeurs. Et la justice nous est due, et dans ce cadre, nous soutenons bien sûr l'initiative d'Ali Pensée d'ériger un monument, l'association qui s'est construite autour de cela, et nous renouvelons instamment notre demande d'une réhabilitation collective de tous les fusillés pour l'exemple, c'est-à-dire les 639 qui ont été décomptés par le secrétariat d'État aux anciens combattants. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce sur cet appel.
Bah écoute Pierre, je te remercie. Effectivement, comme tu l'as dit, 100 ans après, c'est une plaie qui est encore ouverte. Et à travers cela, la libre pensée, ce n'est pas non plus un sparadrap, ce n'est pas la médecine, mais nous, il y a cet appel des familles des fusillés et il y a aussi ce monument. Afin que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre en quoi ils peuvent être utiles, est-ce que Nicole, tu peux rappeler comment ces auditeurs et ces auditrices peuvent aider la libre pensée à bâtir ce monument, à le faire construire?
Alors, ce n'est pas très difficile, il faut prendre un carnet de chèques.
Et... Oui. Ça commence toujours par là, c'est incroyable.
Bon, nous avons déjà récolté plusieurs milliers d'euros, mais évidemment, pour un monument en pierre, de 4 mètres de hauteur, il faut beaucoup d'euros. Donc, nous demandons bien sûr à tous ceux qui sont intéressés, que ce soit les particuliers, les associations, les municipalités, puisqu'un certain nombre ont pris déjà position pour la réhabilitation, qu'elles envoient, eh bien, disons, leurs dons au siège de la Libre Pensée, à savoir 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement à Paris. Et en libellant le chèque à l'ordre, justement, de la libre pensée.
Et en précisant que c'est pour le monument.
Bien sûr, en précisant que c'est pour le monument. Un petit cadeau, un reçu fiscal est envoyé à tous les dons pour tous les dons qui dépassent 50 euros.
Très bien. Bien, sur ces précisions, nous allons rendre l'antenne. Nous vous remercions. Je remercie Madame Ossard, je remercie Pierre Roy et Nicole Orini de nous avoir accompagnés lors de cette émission. Nous n'avons pas le temps de présenter le livre du mois. Néanmoins, je tiens à remercier à la réalisation Dany Journaud et à la technique Olivier Dupré. Au mois prochain, merci bien. C'était La Libre Pensée.
Les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.